Très heureux de vous retrouver, chers auditeurs de Radio Maria, pour cette nouvelle année scolaire. On va pas se caler sur l'année liturgique, on va prendre un peu le rythme de l'année scolaire, qui est aussi l'année des championnats de sportifs, souvent. Donc voilà, on va vraiment se caler. Et puis aujourd'hui, je vais vous entraîner sur cette question quel est mon coéquipier, quel est mon équipier? Vous savez, le sport. Quand on regarde le sport professionnel, le sport le plus connu, on va magnifier des exploits individuels, mais un coureur seul, un champion seul n'arrive à rien. Et on voit à quel point, mais c'est comme dans notre vie spirituelle, on est seul avec le Christ, donc on n'est jamais seul. Mais même dans nos relations humaines, cette solitude n'est pas souhaitée, n'est pas voulue et n'est pas féconde. Donc aujourd'hui, on va partir à la recherche, en ce début d'année, de savoir qui sont mes coéquipiers. Vous savez, dans la communication aujourd'hui, on dit qui sont mes parties prenantes. Et de façon chrétienne, la question qui peut nous interpeller, c'est qui sont ces prochains, qui sont ces personnes qui me sont proches, qui sont proches de moi et avec lesquels j'ai un lien de charité qui doit s'établir. Il ne s'agit pas d'aller très très loin. Un jour, le philosophe Gustave Thibon avait dit la phrase suivante de façon assez prémonitoire, parce que c'était déjà dans les années 70. Il disait: à force d'être proche de ce qui est loin, on est loin de ce qui est proche. Et c'est vrai qu'on peut avoir aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, une espèce de tentation d'aller nous occuper des gens qui sont dans des ultra-périphéries, alors que ceux qui sont à nos côtés, proches, il peut y avoir une forme de snobisme qui consiste à dire: non, on va pas s'en occuper, peut-être que je les connais trop. Et donc, moi, aujourd'hui, je voudrais un peu recentrer autour de notre personne, comme. Parce que nous sommes des êtres de communion, de relation et de service, pour essayer juste en ce début d'année de se poser et de se dire: dans ma galaxie, avec la grâce de Dieu, qui sont mes frères qui gravitent autour de moi? Et qui sont les frères qui vont graviter autour de moi pendant cette année? Et cette année, je vais filer la métaphore, hein, d'un championnat. Le championnat, c'est quoi? C'est cette occasion de donner le meilleur de moi-même, de me révéler. Les terrains de compétition, les terrains de sport sont des terrains d'adversité, et l'adversité, c'est pas ce qui me, c'est ce qui me fait grandir, c'est ce qui me révèle à moi-même. Quand un joueur rentre sur un terrain pour une compétition, pour un match, qu'il soit diffusé, qu'il soit en Mondiovision, qu'il soit juste diffusé localement, cette compétition, finalement, va venir montrer au grand jour tous les efforts de l'ombre qu'il aura accompli à l'entraînement. Donc, c'est aussi la révélation d'un travail de l'ombre, c'est la révélation à la lumière de tout un travail secret, discret, avec une certaine pénibilité. Et il va exposer au grand jour ce travail. Le champion, l'athlète va s'exposer, il va se livrer. Et on va voir ensemble, finalement, dans cette livraison de nous-mêmes, à quel point aussi il y a une dimension, vous l'avez deviné, eucharistique. Voilà, donc ça va être un peu comme un grand zoom qui va venir éclairer nos vies à la lumière de nos devoirs d'État. Je pense à un jeune athlète qui peut être un jeune garçon, une jeune fille dans ce monde qui est déjà en bouillonnement. On voit à quel point la rentrée nous a un peu pris à la gorge, avec beaucoup, beaucoup de nouvelles plutôt très anxiogènes, une vraie incertitude. Et pourtant, il est temps de s'ancrer, il est temps de se mettre en retrait du monde, comme tous les matins, dans le silence de la prière. Et faire écho aussi à ce moment du soir où je peux faire cet examen de conscience. Après les compétitions sportives, vous savez, on a des débriefings de matchs, des examens vidéo. L'examen de conscience, c'est aussi ce moment où on se dit comment est-ce que j'ai interagi avec mon prochain? Quand la relation a été une relation de fécondité, de don, de joie, parce que le fruit de ce travail, c'est la joie, je rends grâce et je reste sur cette même ligne. Et puis, quand j'ai manqué à ma charité, quand j'ai été impatient, colérique, désagréable, quand je n'ai pas osé poser des actes de communion, comment est-ce que le lendemain je répare? Et donc là, aujourd'hui, on est à cette étape, on se lève le matin, on commence ce championnat, on commence cette année, et on se dit: quelles sont les personnes que je dois servir? D'abord, dans notre devoir d'État, évidemment, de baptiser, quand nous sommes liés par le sacrement de mariage, il y a ce don de nous-mêmes, ce don désintéressé de nous-mêmes, disait Jean-Paul II, qui est de servir son prochain, qui est de mourir à soi pour que notre conjoint vive, puisse se déployer, toujours avec une grande liberté, puisse être amené à la sainteté. Et donc, c'est cette question du don de soi dans le lien conjugal. Et je place ça vraiment avant la question de la filiation. Quand nous sommes mariés ou quand nous sommes consacrés, c'est une consécration. Qui est mon époux? Ce lien de sponsalité fait que je me donne, je me livre totalement à l'autre, je m'oublie pour que l'autre chemine vers la sainteté. Je suis un tremplin, une échelle vers le ciel pour ce conjoint. Et puis, quand à travers ce sacrement du mariage, la vie nous a traversés, nous avons accueilli la vie donnée par le Seigneur, nous sommes devenus ainsi co-créateurs, eh bien je rends grâce éternellement pour ce conjoint qui m'a permis de mesurer comment biologiquement, spirituellement, corporellement, j'ai pu donner cette vie qui est un miracle et un mystère qui me dépasse pour toujours. Voilà. Donc le premier, j'allais dire, le premier coéquipier, le premier prochain, qui est aussi quelque part aussi mon entraîneur dans notre vie de couple, ou qu'il l'a été, peut-être qu'on ne le sait pas, mais essayons de nous poser et de dire, comme dans un, vous savez, il y a des compétitions mixtes, souvent au tennis, eh bien, aujourd'hui, je vais poser un geste, un moment, une parole, mais un geste, c'est plus sportif. Voilà, nous sommes incarnés, c'est beaucoup plus sportif, de gratitude vis-à-vis de mon conjoint. Et je vais lui dire merci, merci pour toutes ces belles compétitions de nos vies que nous avons fait ensemble et que nous allons vivre encore aujourd'hui pendant cette journée, en début d'année scolaire. Merci pour les engagements que nous allons aussi peut-être partager ensemble, parce que nous avons des choses à faire, nous avons à nous nourrir mutuellement et nous avons à servir ensemble, peut-être l'Église, peut-être dans une association caritative, peut-être dans notre travail, si nous travaillons aussi de façon plus ou moins proche avec notre conjoint. Mais mettons-nous au cœur de cette trinité, dans cette circulation d'amour, de don désintéressé de soi, et rendons grâce dans un état vraiment de louange pour ce conjoint qui nous a été donné. Et puis avec cette question qui consiste à dire comment est-ce que jour après jour, je vais venir reconquérir mon conjoint, parce que c'est tout un travail. Un jour, je me souviens, le cardinal 23 avait dit, souvent, dans les bonnes petites pieuses familles bourgeoises, on pense que on doit se marier pour cocher la case mariage, on doit avoir sa maison pour cocher la case propriétaire, et puis on a sa voiture pour faire des trajets, etc. Et quelque part, on pense que un conjoint peut être un peu comme une maison, comme un bien qu'on acquiert, alors que le conjoint, j'interagis tous les jours avec lui, ce n'est pas... pour avoir un vocabulaire comptable, ce n'est pas une immobilisation qu'on garde, ce n'est pas une œuvre d'art qu'on va stocker. Il faut tous les jours entretenir, mettre en place des mécanismes de maintenance, de conquête, de célébration, de joie, pour nourrir et chaque jour féconder cette relation avec son conjoint. Et je sais que c'est difficile, parce qu'il y a des moments de fatigue, il y a des moments d'agacement, il y a des moments de sécheresse. Mais voilà, ce conjoint et ce coéquipier, il est à mes côtés, il m'a été donné, et puis il y a ce lien sacramentel qui m'unit à lui comme le Christ est uni à son Église. Donc je l'accueille, j'accueille ce lien, et puis je replonge vraiment dans la fidélité de cette promesse que j'actualise chaque jour. Ernest Renan, l'historien, parlait de cet attachement à la nation. Il avait une belle expression qui est un plébiscite de tous les jours. Et peut-être que notre relation avec notre conjoint est ce plébiscite de tous les jours que je reconquiers chaque jour avec toujours cet élan peut-être du jeune homme, de cette jeune femme amoureuse, et puis cette action de grâce et cette gratitude. Ensuite, il y a ces enfants qui nous ont été donnés par la grâce de Dieu, par cette puissance créatrice du Seigneur, par le soutien de mon conjoint. Et voilà. Et comment est-ce que ils sont aussi placés à côté de moi. Je suis peut-être plus comme un entraîneur qui va leur montrer le chemin. Mais n'oublions pas, même si nos enfants sont un peu grands, ce pouvoir quand même de transformation des parents qui doivent être toujours donnés pour pour libérer l'enfant, pour lui donner cette force, cette confiance, pour attaquer le monde, pour attaquer la vie, parce que la vie est difficile. C'est d'ailleurs le difficile qui est la vie. Souvent, je disais à mes enfants, ne croyez pas que la vie est confortable. Benoît XVI disait, l'homme n'est pas fait pour le confort, il est fait pour la grandeur. C'est un peu comme une course de haies. Souvent, quand mes enfants étaient petits, j'ai travaillé dans les courses de chevaux et nous allions voir les courses de haies à Auteuil. Et le cheval se prépare à sauter des haies. Et il sait qu'il aura des haies à franchir. Donc, il y a tout un travail de préparation du saut. Il y a un travail d'atterrissage. Et je pense que chaque journée, on doit les attaquer, les préparer, comme si nous avions des haies à sauter. Et même si nous ne voyons pas de haies programmées, même si nous pensons qu'il y a une grande ligne droite, que le terrain est léger, eh bien, préparons-nous à sauter des haies. Et ça veut dire que notre disposition de cœur, nous serons suffisamment armés, préparés à sauter cette haie. Acceptons la difficulté. C'est des petites croix qui nous sont données pour nous rapprocher du Seigneur et puis pour convoquer sa grâce pour nous humilier aussi. On a besoin de petites humiliations pour acquérir la vertu d'humilité. Mais attaquons vraiment nos journées dans cet état d'esprit et puis transmettons-le avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'encouragement à nos enfants. À tous les âges de la vie, hein, on voit à quel point la présence du père, de la maman est attendue dans des registres différents. Mais soyons ces réservoirs de confiance vis-à-vis de nos enfants, de gratitude. Vous êtes grands-parents, appelez vos enfants. Vous avez vos enfants à 14-15 ans, ils sont insupportables, ils sont adolescents. Posez-leur des gestes d'affection, de gratitude, de confiance en disant « je crois en toi ». Et vous verrez, ils seront profondément touchés et leur mémoire sera profondément marquée par ces paroles de confiance et de bénédiction. Et puis dans notre équipe aussi, alors là on est dans des liens biologiques et souvent j'ai tendance à l'oublier, si nos parents sont encore de ce monde, célébrons-les. Ne les oublions pas, il y a évidemment cette acceptation, cet accueil de la vie des parents pour leurs enfants, mais souvent les parents peuvent oublier aussi ce qu'ils doivent à leurs grands-parents. Et quand l'heure arrive de la rencontre avec le Seigneur, les parents, les grands-parents peuvent être aussi traversés par une forme d'amertume, de mélancolie, d'angoisse aussi face à la souffrance qui va précéder la mort. Donc, prenons conscience de cela et puis ayons aussi ces paroles, ces gestes. Aujourd'hui, on a les téléphones portables qui peuvent peut-être aussi faciliter la spontanéité des gestes d'affection vis-à-vis de nos parents. Ils ont été nos entraîneurs, ils ont été ceux qui nous ont permis peut-être d'avoir la foi. Et donc ça, nous avons une dette à leur égard, une dette éternelle. Ils ont eu ces paroles de bénédiction. Alors parfois nous avons été blessés, mais plongeons dans la miséricorde du Seigneur pour aussi éventuellement leur accorder notre pardon et leur dire « Papa, maman, je sais que nos relations ont été difficiles. Elles ont été, tu as souffert et il est difficile de transmettre ce que toi-même peut-être tu n'as pas reçu. Mais comment je recrée ces liens de communion avec mes parents et de gratitude ?» Cet été, j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis avant une grande rencontre catholique. Vous savez que je m'occupe des chevaliers de Colomb pour la France. Et avec un ami prêtre, nous sommes allés au cimetière d'Arlington, à côté de Washington. Tous les jours, il y a 3-4 personnes qui sont enterrées dans ce grand cimetière. On sent qu'il y a ce mélange de gravité. Et en même temps, il y a comme une forme de confiance qui nous lie vers l'avant. Et il y a 3 mots qui sont importants, qui sont un peu célébrés en lettres d'or. C'est très américain, c'est très sportif. On retrouve ça comme ça, souvent dans les stades ou bien dans des grands lieux de mémoire. Il y a ce premier mot qui est d'honorer. Donc, honore ton passé. Ne joue pas à l'ado rebelle, rends grâce et honore ce qui t'a été transmis, honore tes anciens. Si nous sommes aujourd'hui ici, si nous sommes aussi quand même dans un pays de liberté, dans un pays dans lequel la liberté religieuse peut s'exprimer, dans un pays dans lequel nous pouvons rendre grâce au Seigneur, nous pouvons transformer ce monde, eh bien honorer nos anciens, toute la vie qui nous ont transmise. Ensuite, le deuxième mot qui est intéressant, et ça vient nourrir notre relation avec nos anciens, avec nos proches, c'est ce mot de célébrer. célébrer, et peut-être que dans le sport, hein, nous pouvons célébrer les victoires, mais parfois aussi on célèbre de façon beaucoup plus digne aussi les défaites ou bien tous ces moments intenses que nous avons pu vivre dans l'aridité de l'entraînement. Donc célébrer, célébrer. Et puis le troisième mot qui nous projette vers le large, vers le futur, c'est explorer. Donc c'est honor, celebrate, explore. Et c'est très intéressant parce qu'on est sur le passé, on est sur le présent de la célébration. Et la célébration, c'est aussi on peut christianiser hein, ces paroles. C'est l'action de grâce, c'est la gratitude qui nourrit nos relations avec nos prochains. Et puis, explore, c'est de se dire comment je vais collaborer, comment je vais transformer le monde avec l'aide de ces proches qui me sont donnés avec lesquels je dois rentrer en communion pour devenir aussi, par la grâce de Dieu, co-créateur. Et cette notion d'exploration, peut-être qu'en France, on l'a un peu oubliée, on est un peu comme des gestionnaires de rente, mais aujourd'hui, on a transformé le monde et notre pays est encore attendu énormément à l'étranger. Sa parole spirituelle, le pape le dit souvent, peut-être y a-t-il un malentendu avec la France, mais il le dit, la France a une créativité missionnaire incroyable. Et comment est-ce que je vais continuer à explorer, à aimer ce monde pour le transformer, à le décrypter et pour intercaler le christianisme? Un jour, Peggy avait évoqué cette question. Comment est-ce que dans ce monde, j'intercale le christianisme? On a l'impression que ce christianisme est étouffé. Et comment je vais trouver les interstices, comme un joueur de rugby va s'intercaler dans une ligne d'attaque, comment le christianisme, je vais l'intercaler dans le monde pour mieux faire aimer et connaître Jésus? Voilà, donc on est un peu là sur la famille, un peu l'équipe biologique. Et puis nous avons un voisinage. Et le voisinage, c'est quelque chose d'intéressant. Pendant un certain temps, j'ai participé à la fête des voisins. Et ce n'est jamais un hasard. Si nous partageons un même lieu, un même village, nous sommes membres d'une même communauté. Et nous, le christianisme va se diffuser par attraction, par infusion. Et donc ce voisin, eh bien, il est mon prochain. Comment est-ce que je vais rentrer en communion avec lui, même si parfois ça est mal entretenu, même si parfois il est bruyant, comment je peux aujourd'hui évangéliser mon voisin? Et quand on réfléchit à cette question du voisinage, en l'élargissant, c'est aussi toute cette question de l'évangélisation de notre pays. Mon proche, celui qui respire peut-être le même air que le mien, celui qui contemple les mêmes paysages, celui qui prend la même route, comment est-ce que je lui fais partager le trésor qui irrigue ma vie? Un jour, le curé d'Ars avait dit, si on enlève le Christ des églises, on y adorera des bêtes. Et je pense qu'aujourd'hui, avec un peu une forme d'effondrement institutionnel du catholicisme, on voit que la présence réelle est moins présente physiquement dans nos églises, eh bien, on voit à quel point aussi il y a une forme de néopaganisme qui va se diffuser. Alors, soit ça va être une aridité totale, soit ça va être c'est l'avènement de la sorcellerie avec l'affaire du footballeur Pogba. Là, j'ai vu que il y a près de 40% des moins de 35 ans qui sont fascinés par le phénomène de sorcellerie. Alors, soit on le voit de façon négative, soit on le voit aussi comme ce cri vers la transversalité, alors une mauvaise, mais ça veut dire aussi que s'il y a cette fascination du mal, le bien est là, le bien s'intercale, le bien est attendu. En tout cas, voilà, posons-nous cette question, qu'est-ce que je fais de mon voisin? Comment je peux lui exprimer ces moments, ces gestes de charité, d'entraide, le remercier aussi? Et puis, je rebondis sur une très belle tradition serbe. Mon épouse est d'origine serbe. C'est que ce sont les fêtes familiales, les fêtes religieuses, où on peut de façon très spontanée, eh bien, partager. Ça peut être une brioche, ça peut être un gâteau, ça peut être une coupe de champagne. Quand notre famille est touchée par un événement de grâce, par un sacrement, eh bien de façon très simple, il ne s'agit pas de faire un prosélytisme agressif, mais comment est-ce que mon voisin, eh bien je l'embarque dans cette aventure de joie. Et en Serbie, il y a quelque chose, j'aimerais bien un jour que les familles catholiques puissent diffuser ça s'appelle la Slava. C'est la fête du saint patron. Et chaque famille est marquée par la protection. la bénédiction d'une figure de sainteté. Et selon le calendrier religieux, le jour où ce saint est fêté, eh bien, il y a un office religieux, il y a une bénédiction. Le prêtre bénit la famille en citant la famille des anciens. On est dans le honor, on celebrate et puis explore et on confie dans cette communion des saints toute cette famille, tous ces coéquipiers, tous ces partenaires de sainteté avec lesquels j'ai ce lien charnel, biologique, que la vie m'a donné. Et en Serbie, il y a un grand saint qui est Saint Nicolas, et ce qui fait que le jour de la Slava, de cette fête de Saint Nicolas, on dit souvent que ce jour-là, la moitié des familles serbes sont chez elles pour fêter la Saint-Nicolas et l'autre moitié sont invitées par les familles qui fêtent la Saint-Nicolas. Donc c'est une grande célébration populaire et religieuse autour de cette figure de sainteté. Voilà, ce petit focus sur mon voisin. Et puis dans notre vie professionnelle, comment est-ce que je dois... J'apprends auprès de collègues. Alors, parfois, il y a des collègues qu'on subit, comme on peut subir des frères et sœurs, comme on peut subir, entre guillemets, des cousins. Je n'ai pas évoqué des relations qui sont toxiques et il ne faut pas être angélique. La famille peut être un lieu aussi de destruction. L'entreprise peut être un lieu aussi d'oppression et de grande souffrance. Mais aujourd'hui, mon propos, c'est de dire comment est-ce que moi, dans cet esprit sportif, je vais servir et je vais faire que ma relation avec ce prochain, elle est féconde. Le 1 plus 1 égale 3. C'est l'équation que j'aime beaucoup. Et ce petit supplément, ce petit complément, eh bien, je crois que c'est l'Esprit Saint qui va venir bonifier, augmenter la fécondité de nos relations. Donc aujourd'hui se pose cette question, comment est-ce que les personnes avec qui j'interagis, alors je peux être aussi bénévole, mais dans le cadre d'une activité professionnelle, comment est-ce que je donne sens avec cette activité de bénévolat associatif ou bien de travail, quel que soit aussi le but de l'entreprise, parce que ça ne passe pas par des grandes réalisations, des grands deals, ce sont des petits gestes de coopération. Comme des joueurs de rugby vont se faire une passe pour aller à l'essai. Et donc la finalité, ce n'est pas du tout pour qu'un joueur brille, mais c'est pour que collectivement, d'abord on est tendu vers un but, et puis le joueur va s'oublier, il va mettre toute sa technique, toute sa lucidité, toute sa virtuosité au service du collectif pour amener le meilleur d'entre nous marquer cet essai, non pas pour que ce joueur-là, le marqueur d'essai, célèbre son ego et fasse cocorico, mais réellement parce qu'à ce moment-là, c'est lui qui a porté collectivement tout l'effort de l'équipe. Donc cette coopération professionnelle, ça peut passer aujourd'hui par l'envoi d'un SMS affectueux, un SMS d'encouragement, un bonjour dans un email. Un jour, j'avais un coach qui me disait « Est-ce que tu peux faire du moindre de tes emails un chef-d'œuvre ? Comment est-ce que l'email professionnel, j'arrive à le gonfler d'amour, de confiance, de gratitude, tout en émettant éventuellement un reproche, tout en demandant quelque chose, un service ? Mais comment est-ce que celui qui est au bout n'est pas uniquement... finalement un agent qui va me rendre service, mais est réellement quelqu'un que je dois servir et quelqu'un à qui je vais coopérer. Donc nous évoquions un peu tous ces prochains, tous ces coéquipiers, tous ces équipiers qui seront à mes côtés pour cette nouvelle année. On a parlé de nos conjoints quand nous sommes liés par le sacrement du mariage, de nos enfants, de nos parents, et puis de nos voisins, hein, des personnes avec qui nous travaillons. Et puis, je voudrais évoquer aujourd'hui avec vous cette question des grandes amitiés. Il y a un an, j'avais relu le livre de Raïssa Maritain, de Jacques Maritain, et tout à l'heure, j'ai peut-être eu un mot un peu fort quand j'ai parlé de l'effondrement de l'Église institutionnelle, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que l'organisation un peu hiérarchique aujourd'hui de l'Église, de fait, est assez fragilisée. Les relations humaines entre clercs et dans les instances de l'Église sont des relations, il me semble, qui ont besoin aujourd'hui d'être retravaillé, d'être simplifié avec peut-être plus de plus de chaleur humaine, plus de détente. Et on voit aussi que des organisations très masculines, et je le dis parce que je connais bien le milieu du sport, je connais aussi le milieu de l'armée, et donc l'organisation de l'Église est une organisation très masculine dans sa structure hiérarchique. Ce sont des organisations qui sont humainement assez violentes. Et donc, pour connaissant cette violence par rapport à des enjeux de pouvoir, de décision, d'exécution, eh bien, le milieu du sport comme le milieu de l'armée travaille deux choses. Travaille la formation et avec beaucoup, beaucoup de formation humaine qui nous conduit à la connaissance de nous-mêmes. À la connaissance de nous-mêmes, comment je réagis en situation de stress, comment j'habite mon corps, comment je travaille à monter des projets concrets avec des coachs, avec des tuteurs, comment j'interagis avec des opposants, que ce soit. Et donc, il y a un gros travail de formation. Et puis, il y a aussi des gros travails de cohésion dans les équipes sportives et dans les milieux militaires. Et donc, je dis ça parce que je vais m'occuper de la journée des prêtres du Congrès Mission le 30 septembre, et c'est un peu en exclusivité un des discours que je vais leur transmettre. Comment je travaille cet esprit de corps. On aura certainement cette année l'occasion de méditer sur cet esprit de corps, comment j'habite mon corps et puis comment je fais corps aussi avec les gens avec qui je coopère. Et donc peut-être qu'aujourd'hui, l'Église doit travailler sur ces thématiques qui sont des thématiques humaines. Vous savez, il y a la nature et la grâce, et la grâce transformante vient rejoindre une nature, et cette nature, elle peut être travaillée par la connaissance de soi, la connaissance de son caractère, et puis de son tempérament, pardonnez-moi, et puis ensuite à travers le caractère, on convoque et on travaille des vertus. On travaille sur des vertus. On connaît les vertus cardinales, et puis il y a énormément de vertus. On aura l'occasion d'en reparler, en particulier dans le monde sportif, parce que le monde sportif, l'exercice sportif, que ce soit dans l'entraînement comme dans la compétition, vient convoquer et vient mobiliser de magnifiques vertus humaines. Et c'est là vraiment que ce cocktail explosif entre vertus humaines et vertus spirituelles fait qu'on est vraiment dans la célébration et la glorification de l'homme tel que le Seigneur l'a voulu. Voilà. Donc, parmi tous mes coéquipiers de l'année, toutes ces personnes que je vais servir, il y a aussi, eh bien, j'allais dire, ces inconnus qui me seront donnés de rencontrer. Et j'aimais beaucoup cette vieille tradition française qui consistait à laisser toujours une table à l'inconnu. Est-ce que dans nos emplois du temps qui sont surchargés, qui sont surbookés, qui sont extrêmement bien huilés, je suis capable de laisser un peu de temps de gratuité pour la personne que aujourd'hui il me sera donné de rencontrer. La providence a toujours des plans. Je crois qu'on disait souvent familialement qu'il y a un hasard avec un grand P, et il nous arrive comme ça de recroiser des personnes ou bien d'avoir une complicité dans le regard. J'ai découvert cet été une très belle chanson de Dalida. On pourra la passer peut-être lors d'une prochaine émission qui s'appelle Des gens qu'on aimerait connaître. Et c'est une chanson qui doit peut-être interpeller tous les chrétiens. Elle évoque ces personnes qui peuvent être un peu lumineuses dans la rue, que nous pouvons avoir l'occasion de croiser. Et ces gens-là, on voudrait passer du temps avec elles. On sent qu'elles pourraient nous apporter quelque chose. Et elle disait, ces personnes avec lesquelles on voudrait rentrer en communion. Dalida, dans son extrême sensibilité, sa souffrance, et puis. Et voilà son émotivité, et puis il y a une grande joie de vivre aussi qu'on sent chez cet artiste blessé mais profondément vrai et authentique. Elle évoquait ces personnes qui nous rendent intelligents, qui nous rendent intelligents. Et l'étymologie d'intelligence, c'est interlegere, c'est de voir entre les lignes. Et donc ce sont des personnes qui, pas si vous arrive d'en avoir rencontré, qui vous, quand elles vous regardent, elles vous rendent meilleur. Elles vous font une sorte de. Il y a comme un fond de l'œil, et puis elles vont diffuser cette énergie de bienveillance qui fait que vous avez envie de donner le meilleur de vous-même, ce qui suppose une grande qualité d'écoute et une présence à l'autre. Et donc, pendant cette nouvelle année, d'abord, essayons de nous laisser inspirer et transformer par ces personnes qui arriveront à peut-être décélérer dans leur rythme quand elles vont vous croiser pour se consacrer 100% à l'écoute de votre personne, qui vont, à travers cette écoute active, peut-être vous permettre de reformuler, de creuser un peu au cœur de vos problématiques, qui sauront aussi exprimer elles-mêmes des vulnérabilités pour rentrer dans une relation, non pas de surplomb, un peu professorale, verticale, mais qui par leur authenticité, leur vulnérabilité, vous rejoindront vous-même avec empathie et délicatesse dans vos propres fragilités. Et donc, posons-nous aussi cette question dans cette relation, entre guillemets, toujours sportive, qui va nous lier les uns aux autres. Il y a aussi ces moments de décélération. Les grands champions, parfois, sont accompagnés par des coachs qui vont leur dire « écoute ton corps, écoute tes émotions ». Et il y a ces personnes qu'on aimerait connaître, ces personnes qui vous font du bien, avec lesquelles on veut rentrer en communion. Donc, sachons les identifier. Et puis sachons travailler aussi et fidéliser ces belles relations qui nous font grandir. Et puis nous-mêmes, est-ce qu'on peut être ces personnes qu'on aimerait connaître? Posons-nous cette question. Est-ce que écoutons cette chanson de Dalida, ça fait partie d'un devoir pour le mois à venir. Et puis comment est-ce que je peux être cette personne qu'on aimerait connaître, un peu lumineuse, radieuse? Un jour, j'ai eu l'occasion de faire une session d'équithérapie. Et vous savez, l'équithérapie, Ça vous conduit à rentrer dans un manège autour d'un cheval, donc 500 kilos. Vous êtes en totale situation de vulnérabilité et il faut que vous soyez vraiment avec tout votre corps, votre esprit, votre âme presque, rentrer en communion, en attention avec ce cheval. Et l'animal le perçoit immédiatement. Et si votre esprit divague, il va faire un bond de côté. Et si au contraire, vous rentrez dans cette relation d'intensité, de communion, eh bien, il va se laisser guider. Et avec d'un mouvement de tête, vous arriverez à faire tourner l'animal. Et c'est très étonnant. J'ai vu cette expérience. Moi-même, j'ai été tétanisé par la peur. Je ne suis pas resté longtemps, je vous le dis. Mais j'ai une fille à l'âge de 9 ans qui s'est comme ça un peu livrée et qui a donné toute sa force de cœur et de regard vers ce cheval. Et ça lui a donné un pouvoir de rentrer en dialogue. Alors, il ne s'agit pas, nous ne sommes pas tous des chevaux étalons, juments, etc. Mais posons-nous cette question, est-ce que quand je suis face à un prochain, et là, on peut balayer un peu toute la liste des prochains et des coéquipiers qu'on a pu évoquer, nos enfants, nos parents, nos voisins, les personnes avec qui nous travaillons, les personnes que nous servons dans nos activités de bénévolat, est-ce que je suis totalement centré sur eux-mêmes? Est-ce que je suis donné pour elles-mêmes, ou est-ce que finalement je suis dans une relation où je fais mon show et je voudrais juste qu'elle m'applaudisse, je voudrais qu'elle me vénère et puis qu'elle me dise des belles choses et puis ensuite, ou bien qu'elle me rende juste un service. Donc je suis dans une relation finalement assez utilitaire. Voilà, donc ce sont tous des coéquipiers, c'est tous une galaxie de personnes qu'il m'est donné aujourd'hui, célébrer dans cette rencontre humaine. Et puis tout au cours de l'année, peut-être en début de journée, de rendre grâce au Seigneur par avance pour ces personnes avec lesquelles nos relations seront marquées par une mémoire, par une histoire, des blessures, des bons moments. Comment est-ce que une relation de louange, une relation de bénédiction et de fécondité pour le monde va s'établir? J'évoquais tout à l'heure ces grandes amitiés, donc une institution peut-être bureaucratique, ecclésiale, fragilisée, et ces grandes amitiés, ce sont des amitiés qui vont nous faire prendre conscience mutuellement que nous avons de grandes et belles choses à faire au service de la consolation et puis au service vraiment de l'édification de ce monde. Comment est-ce que je console parce que les blessures sont là, et comment est-ce que, en célébrant les talents les uns et des autres, en partageant, sans jouer des rôles, des jeux, en faisant tomber les masques, en partageant nos fragilités, nos vulnérabilités, je peux demander service à l'autre pour et puis je reconnais aussi mes talents pour faire de belles choses. Et il me semble qu'aujourd'hui, on perd beaucoup d'énergie et puis de temps à vouloir faire nos propres petits projets, à vouloir rester peut-être sur notre couloir, alors qu'en regardant un peu à côté, on a des coopérations fructueuses à mener. Et ces grandes amitiés, ça consiste à célébrer les talents de l'autre et à lui permettre, par le questionnement, par le service, tiens, tu devrais rencontrer telle personne, etc., à faire en sorte que le jeu, comme un sportif, le jeu de l'autre s'améliore. Nous sommes tous les entraîneurs les uns et des autres, et un entraîneur, c'est celui qui va choisir, qui va poser des parcours un peu d'entraînement, d'exigence, donc qui peut poser des questions, et puis qui va élire pour que ces athlètes que nous sommes les uns et les autres, on pénètre sur le terrain et on donne le meilleur de nous-mêmes. Voilà, donc comment est-ce que je peux, on a tous des rôles un peu multiples, on est joueur, on est entraîneur, on est coach, on peut être aussi soigneur. Voilà, j'utilise beaucoup la métaphore sportive, mais comment est-ce que toutes ces relations, ces interactions humaines, elles sont traversées par une énergie de vie, de louange, pour transformer ce monde que, là encore, je dis, nous devons aimer, même si nous avons du mal à le comprendre. Je voudrais vous partager, pour terminer cette émission, un petit texte que j'aime beaucoup, qui est un texte sur l'art de la prière et puis sur la façon de louer. C'était un petit texte de Saint Dominique de Dominique de Guzman qui évoquait les gestes de la prière. Vous savez, un athlète, il mobilise son corps tout entier. Et pour Saint Dominique, il y avait 9 manières de prier. Et je voudrais juste vous partager ce petit texte sur ces 9 manières de prier. Et puis chacun, finalement, on va se retrouver. Et nos manières de prier expriment eh bien, un état d'esprit, un sentiment. Parfois, nous avons besoin de nous mettre à genoux, parfois nous avons besoin de lever les mains, parfois nous avons besoin au contraire peut-être d'être plus en prostration ou bien assis, les yeux fermés parfois. Voilà. Il y a ces multiples façons de prier qui sont des exercices un peu sportifs, de déport, de mouvement de l'âme, et que je vais vous partager. Le saint se tenait humblement prosterné devant l'autel, comme si Jésus-Christ, représenté par cet autel, lui était réellement et personnellement présent, ou entièrement étendu la face contre terre, entretenant alors dans son cœur de vrais sentiments de compunction. Ou encore, il considérait avec une incomparable pénétration le crucifix, devant lequel il faisait de nombreuses génuflexions ou se relevait et s'agenouillait à plusieurs reprises. Là, ça fait un peu écho aux métanies des frères de Lorient. Parfois, autre manière de prier, il se tenait debout devant l'autel, bien droit, de tout son corps, sur ses pieds, les mains étendues devant sa poitrine à la façon d'un livre ouvert. Plongé en oraison, on le voyait méditer la parole de Dieu et, comme cela, redire à lui-même avec suavité. Tantôt, il joignait mains et les tenait fortement unies devant ses yeux en se ramassant sur lui-même. Tantôt il les relevait à hauteur des épaules. Il priait encore les mains ouvertes, les bras proprement et fortement tendus en forme de croix et debout le corps aussi droit qu'il le pouvait. Certains le voyaient parfois se dresser de toute sa taille vers le ciel à la manière d'une flèche qu'un arc bien tendu aurait lancée droit dans l'azur. Il élevait au-dessus de la tête les mains fortement tendues, jointes l'une contre l'autre ou légèrement ouvertes comme pour recevoir quelque chose du ciel. D'autres fois encore, il s'asseyait paisiblement et après avoir fait le signe de la croix, il lisait dans quelques livres ouverts devant lui. Son âme éprouvait alors une douce émotion, comme s'il eût entendu le Seigneur lui adresser lui-même la parole. Et comme s'il disputait avec un compagnon, il paraissait tantôt ne pouvoir contenir ses paroles et sa pensée, tantôt écouter paisiblement, discuter et lutter. Voilà, c'était un petit texte qui décrivait les façons de prier de Saint Dominique de Guzman. Chers auditeurs, chers amis de Radio Maria, je suis très heureux d'avoir terminé cette première course avec vous pour une année qui va être très riche. Donc, je récapitule un peu rapidement. Aujourd'hui, nous avons partagé ensemble cette méditation autour de mes relations interpersonnelles, qui sont mes équipiers, mes coéquipiers, ces conjoints qui me sont donnés de servir, ces enfants, ces parents, ces voisins, ces collègues de travail, et puis ces grandes amitiés, ces minorités créatives dont parlait Benoît XVI, avec lesquelles va se nourrir une grande amitié spirituelle pour transformer le monde et faire que chaque jour, le nom de Jésus soit davantage aimé et adoré. À bientôt, chers amis de Radio Maria.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, vous venez de suivre la première émission Athlète du Christ présentée par Arnaud Boutéon. Vous pourrez réécouter cette émission au podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.